Vous écoutez RMC. RMC.
Il court, mais il sprint vers Pulido. Il lui met un coup de poing monstrueux. Non, mais c'est n'importe quoi.
Bah, écoute, moi, je trouve ça pas non plus scandaleux.
On est vraiment dans une société de fragiles, sérieux, quoi.
Non, mais je comprends Polo et Daniele. Après, je te comprends toi aussi et je comprends tout à fait Edgar.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est RMC, c'est Génération After spécial. Drôle de dame. La seule émission à la radio française qui parle pendant 2 heures des championnats étrangers. Pour l'Italie, il signor di Roma, Daniele Manuccia. Salut Daniele.
Ciao Nico, ciao tout le monde.
Pour l'Allemagne, Herr Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde.
Pour l'Angleterre, Serge Julien Laurent. Salut Jules.
Salut Nico, salut à tous.
Et pour l'Espagne, Don Edgar Grollo. Bonsoir Edgar.
Salut Nico, salut tout le monde.
On va se retrouver les gars, on est ensemble jusqu'à 22h comme tous les lundis soirs. Tour des championnats italiens, allemands, anglais et espagnols bien sûr. Des quelques nouveautés, il y aura désormais un quiz rapide en fin d'émission pour savoir si vous avez suivi les championnats des camarades. Autre drôle de dame. D'abord vos 3 points express. De quoi allez-vous nous parler ce soir messieurs? Julien, je commence avec toi.
Alors, on va parler dans les trois points, dans les trois thèmes de la soirée. Le Cherki Show, déjà pour commencer, Ryan Cherki vendredi soir. On parlera de JP Morgan, c'est pas la banque, mais c'est l'attaque de Chelsea. Et puis on aura un mot sur Tottenham, 2 matchs, 2 défaites. Est-ce que Roberto De Zerbi va lui aussi galérer pour sortir cette équipe des problèmes des 2 dernières saisons?
Edgar.
Le début de saison canon de Bellingham et Mbappé, Aubameyang qui fait décoller le Deportivo La Corogne avec 3 buts en 3 matchs, Levante qui a terrassé le Betis, c'était la surprise du week-end, et puis une minute sur un joueur marocain prêté par Rennes qui a signé un triplé en Liga.
Daniele.
Bah, la Serie A, elle se refait les maquillages, elle en a marre d'être moche, elle se refait les sangs, elle se refait les fesses, elle peut être séduisant, comment a battu Naples, Fabregas a battu Allegri, et après on va parler aussi de la Juventus, que top fort ou flop fort?
Polo.
Bon, c'est la surprise de la première journée. On va parler du Dorfverein, le club de village, évidemment, Elversberg, qui a patâté Leverkusen d'une certaine façon. La diva capricieuse, évidemment, Francfort, malgré son 3-3 à Berlin, c'est le sujet principal en Allemagne. Et puis Dortmund victorieux tranquille 2-0 contre Hambourg, malgré avoir fini à 10 contre 11. On va se poser la question des objectifs de Dortmund et de ses ambitions.
Voilà le programme des drôles de dames. L'after avec Gilbert à 22h. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, salut à tous. La Liga évidemment avec l'évaluation du week-end. Vous le savez désormais tous les lundis dans l'after, les boulets de l'after, les hommes du week-end. L'OM sera au programme où rien ne va plus. On fera un point sur le mercato. On évaluera le début de saison du PSG en Ligue 1. Le mercato lillois également avec Fernandes Pardo qui s'en va. Lyon et Fonseca qui fera débat ce soir dans l'after. Donc 100% Ligue 1 bien sûr.
Ah, restez
avec
nous.
22h tout à l'heure.
Sur RMC. À tout à l'heure Gilbert. L'US Open. Attention, grosse désillusion pour le Français, un des favoris du tournoi. Eric Salio, bonsoir.
Ah, c'est un coup de tonnerre. Bonsoir. Nico, élimination à l'instant d'Arthur Fils, tête de série numéro 10, auréolé d'un titre au Masters 1000 de Cincinnati. Eh bien, il coince d'entrée face à un super Stefano Tsitsipas, 4-6-7-6, 6-1-6-4. Mais quand on dira que le Français a mené 6-4-5-2, on se demande ce qui s'est passé dans sa tête. Donc, élimination d'Arthur Fils. Quel coup.
Oh, le coup dur terrible. Bon, j'espère que la quinzaine sera belle quand même pour toi, mon cher Eric. Mais tu perds cheval dans ta quinzaine new-yorkaise.
Ah oui.
À tout à l'heure, Eric. C'est parti avec les drôles de dames, bien sûr. Tiens, commençons par avec toi, Edgar, par le Real Madrid et si Bellingham et Mbappé devenaient enfin des frérots, des hermanos techniques. Une idylle est-elle en train de naître, de se construire entre l'anglais et le français, Edgar?
Oui, ben ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'était pas du tout le cas, en tout cas en fin de saison dernière, sur la deuxième partie de saison. C'est vrai qu'il y a eu, il y a pu avoir des tensions. C'est deux grands joueurs, deux joueurs avec de l'ego aussi, qui avaient envie de réussir et ça se passait pas bien. C'est vrai qu'il y a énormément de tensions dans le vestiaire la saison dernière au Real Madrid, qui peuvent s'expliquer en partie par les mauvais résultats de cette équipe. Mais là, t'as deux joueurs qui sont au-dessus du lot sur ces premiers matchs de la saison. Ils ont vraiment marché sur l'eau. 4 buts pour Mbappé sur les 3 trois premiers matchs. 2 buts, 2 passes D pour Bellingham. Ça aurait pu être 3 buts, mais un but finalement a été transformé en contre son camp face à Malaga. On peut même ajouter Vinicius, 1 but, 2 passes D qui est un petit peu en dessous, mais qui participe aussi au résultat collectif. Mais Mbappé et Bellingham, t'as vraiment deux joueurs qui performent presque à leur niveau qu'ils avaient à la Coupe du Monde. Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que t'as un entraîneur, José Mourinho, qui essaye vraiment de les mettre dans leur zone de prédilection, de jouer avec eux par rapport à leur qualité, de les mettre vraiment à leur poste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit par exemple un Jude Bellingham qui a de nouveau cette liberté d'être très très haut sur le terrain. Alors, il occupe, on va dire, ces deux zones préférentielles. Parce qu'on parle toujours de cette zone Bellingham très proche du but, c'est-à-dire presque en 9,5 parfois. Et effectivement, il a cette liberté et ce rôle-là avec José Mourinho qui lui permet d'être ultra décisif, qui lui permet d'être très proche du but. Mais aussi une autre zone qu'il apprécie beaucoup, c'est une zone un petit peu désaxée presque dans cet espace qui se situe entre l'aile gauche et l'axe du terrain, qui l'occupe énormément et qui lui permet en plus d'avoir cette proximité à la fois avec Vinicius et avec Kylian Mbappé. C'est une zone dont il a déjà parlé en interview par le passé, qu'il apprécie énormément. Et donc avec le ballon, il est vraiment mis dans les meilleures dispositions pour l'instant, encore une fois, et on parle de matchs, on va dire, peu importants par rapport aux autres matchs qui vont arriver plus tard dans la saison. Mais pour l'instant, il est mis dans les meilleures dispositions. Et Kylian Mbappé, lui, bah, il a ce rôle évidemment de buteur, mais aussi cette liberté de pouvoir décrocher un petit peu, de pouvoir récupérer le ballon, de pouvoir provoquer un petit peu, redescendre, apporter aussi au jeu. Et on voit pour le moment deux joueurs qui s'épanouissent énormément, et surtout cette volonté aussi de la part de José Mourinho, que ce soit dans ce qu'il met en place sur le terrain ou même et surtout dans sa communication, de faire passer ce message qui est: je veux faire jouer tous ces joueurs ensemble et que ça marche une bonne fois pour toutes.
Mais c'est intéressant parce qu'il y a 10 jours en conférence de presse, une semaine, il avait dit: j'aime pas parler des joueurs individuellement en conférence de presse, mais là il le fait à chaque fois désormais. Ouais. Bellingham il a encensé, Mbappé il a encore encensé, tous ces joueurs quasiment cas par cas il les encense en conférence de presse. Il donne beaucoup d'amour à Mourinho, il sait que ça passera par là aussi, quoi.
Bien sûr, et même pas que eux d'ailleurs, hein, un joueur comme Eduardo Camavinga, personne n'avait demandé quoi que ce soit en conférence de presse, il a dit, bah, il a fait un match extraordinaire, alors que c'est pas un joueur très aimé par les supporters, c'est ce qu'il a dit. Donc il essaye vraiment de faire quelque part des passes dés à ses propres joueurs, mais effectivement avec Bellingham et avec Mbappé, c'est encore plus présent. Bellingham, il parle notamment de son leadership, et Mbappé, mais il nous rappelle toutes les trois questions que ça a été, qu'il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Grosso modo, il fait déjà sa pub pour le Ballon d'Or. On sent qu'il va y avoir une grande campagne dans ce sens-là.
Comment il l'a fait?
Et bah, en disant le Ballon d'Or, par exemple, pour lui, ça devrait pas aller à un joueur du Paris Saint-Germain ou de la sélection espagnole, que si c'était ça, bah faudrait juste donner à Luis Enrique parce que c'est grâce à lui qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Et lui il dit, mais en fait le Ballon d'Or ça devrait être un titre pour des joueurs qui vont nous manquer quand ils prendront sa retraite. Et c'est l'exemple qu'il donne pour parler de Kylian Mbappé. En fait, il estime qu'il y a 3-4 joueurs dans le monde qui sont des top joueurs, et lui ce qu'il dit, bah en fait ces 3-4 joueurs là ils sont dans mon équipe. Bon, il y en a d'autres aussi évidemment, mais en tout cas il estime que le Ballon d'Or grosso modo c'est pour des joueurs comme Kylian Mbappé, et c'est pas pour un joueur qui a fait juste gagner son équipe.
Oui, dans voilà, un, dans évidemment un discours d'entraîneur qui veut cajoler toujours un peu plus sur l'attaquant qui a 4 buts cette saison, 3 matchs bien sûr. Bon, il oublie au passage volontairement par exemple un Anglais qui joue au Bayern, Harry Kane aussi
par exemple.
Ça va devenir bien sûr un gros débat parce que la course est ouverte pour le Ballon d'Or. Dis-moi, tu parles de duo, de complicité là, naissante peut-être, on va attendre, on va rester patient, hein, entre Bellingham et Mbappé. Est-ce que ça peut devenir un trouble avec Vinicius?
C'est l'objectif, que ce soit un trouble. Mais pour l'instant, Vinicius, c'est un petit peu celui qui reçoit le moins d'amour, on va dire, dans ce trouble-là. Vinicius, il le met aussi dans les conditions qui peuvent l'aider. C'est-à-dire vraiment, on sent qu'il a cette liberté de pouvoir dribbler sur l'aile et d'être vraiment sur l'aile. J'ai l'impression que ça permute un petit peu moins que par le passé entre Vinicius et Kylian Mbappé. Et surtout, comme je vous disais, vu qu'il y a Bellingham qui occupe aussi parfois fois le côté gauche. Il se trouve très bien, mais il y a moins de permutations peut-être entre Mbappé et Vinicius. Et Vinicius, je trouve aussi qu'il a, voilà, il est en dessous en termes de niveau tout simplement. Il y a beaucoup plus de déchets dans ce qu'il fait aujourd'hui. Il a quand même, je vous le disais depuis le début de cette saison, un but de passe décisive. On sent aussi que Mourinho, il a une vision différente de Vinicius qu'un Kylian Mbappé. Par exemple, Vinicius, l'autre jour, il lui avait sorti dès qu'il avait mis un but, parce qu'il a expliqué, je le sors parce qu'il a mis un but, que en gros ça suffit et qu'il va se faire acclamer par les supporters, ça va lui faire du bien. Alors que Kylian Mbappé, il dit, bah, je le sors pas parce qu'il en a mis trois et que j'ai envie qu'il mette le quatrième. Donc on voit que la façon dont il perçoit ces deux joueurs-là est extrêmement différente. Et je pense que par le passé, il y avait certains coachs qui peut-être n'assumaient pas de parler de ces deux joueurs-là d'une façon différente. Je pense que José Mourinho, il assume que c'est deux profils complètement différents et qu'il a envie que ces deux joueurs-là lui apportent quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, à la fin, Vinicius a mis une passe décisive sur le dernier match pour Arda Güler et il est pas dans une mauvaise phase non plus, hein, même s'il est en dessous des deux autres et qu'il est éclipsé surtout, je dirais que c'est surtout ça, éclipsé par les deux autres. Ça peut se débloquer aussi dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est la volonté.
On verra. Les attaques à trois.
Bien sûr.
Les attaques à trois, les dynamiques sont souvent très intéressantes. Hein. Si tu rappelles, par exemple, du Liverpool de Klopp avec Mané et Salah qui s'entendaient pas très bien et Firmino qui faisait un petit peu qui faisait du lien entre les trois. Même à l'époque, même la BBC du Real où t'avais quand même Cristiano et Benzema qui était bien au-dessus de Bale qui était en retrait, qui a marqué des buts très importants mais qui était quand même en retrait. Il y a pas mal d'attaques à trois comme ça où deux c'était très bien, le troisième en général était quand même un petit peu derrière.
Et là il y a même.
Mais il faudra voir aussi en Ligue des Champions hein, parce que Vinicius c'est Monsieur Ligue des Champions aussi avec le Real Madrid.
C'est vrai.
Daniel.
Il a demandé aussi qu'il pourrait s'incruster à la fête.
Bah, on en a fait le débat dans le podcast Espagne qui est d'ailleurs en ligne actuellement. Il a demandé à chaque conférence de presse, il a interrogé M. Mourinho, il s'agace pas pour l'instant.
Mais là, c'était très intéressant.
Là, il a joué 30 minutes environ, il avait joué 8 minutes le match d'avant, une petite demi-heure le match encore d'avant. Mais on sent que le poids des 140 millions d'euros n'en est pas un pour Mourinho, en tout cas. Il a aucune obligation, en tout cas.
Mais justement, c'était très intéressant en conférence de presse. Il nous l'a expliqué juste après le match face à Malaga ce week-end. Et ce qu'il nous disait, c'est en fait vous, les journalistes, vous voyez. Bon, la scène était très marrante parce qu'en fait, il dit vous voyez le prix. Et après, il regarde l'attaché de presse du Real Madrid qui est complètement figé. Il lui dit on a payé combien, 120, 130, 140. Bon, évidemment, il rigole, il lui répond pas. Lui, il pense qu'il est dans les années 2000 et que le gars va lui répondre. Mais en fait, il dit les journalistes, vous voyez le prix du transfert. Moi, je vois pas ça. Je vois un jeune joueur qui est encore naïf, qui est en construction, qui travaille beaucoup, qui travaille bien, mais qui est pas là pour casser la baraque tout de suite, en fait. Donc je pense qu'il va falloir être patient avec Diomandé, qui va avoir des minutes, mais qui sera pas titulaire dans les premiers mois, peut-être plus tard dans la saison. Il aura son rôle à jouer, ça c'est une certitude, parce que c'est un spécialiste déjà de l'aile droite, ce que l'équipe n'a pas, que c'est un joueur aussi qui peut jouer à gauche, que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup.
Pour l'instant, c'est l'alternance Güler-Diaz, hein, côté droit.
Ouais, il est. Oui, Brahim Diaz, bon, on va dire que c'est Arda Güler qui part titulaire, mais en tout cas, oui, Diomandé, il part pas titulaire sur cette saison. Il faudra être patient. Ça paraît dingue quand t'as payé 130 millions d'euros pour un joueur, mais c'est aussi la réalité du foot en 2026.
Bien sûr,
c'est un gars que le Real ne voulait pas rater, et c'est un pari surtout pour les prochaines années.
Non, mais c'est une façon de rappeler que Mourinho reste Mourinho quand même, qu'il peut se permettre lui de mettre sur le banc pour l'instant un gamin de 19 ans acheté 140 millions d'euros. Qui pour l'instant fait pas de bruit, hein. Yann Diomandé, je pense pas qu'il en fera. Oui. Polo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu connaissais un peu le comportement de Leipzig Diomandé ou pas?
Il était intouchable. Il s'est installé dès le début. Ses résultats, on parle pour lui, donc c'est un peu délicat. C'est plutôt qui allait jouer avec lui, parce qu'il a dès le départ, il a fait. On en avait parlé dès le début de la saison. J'étais assez époustouflé par ce qu'il faisait. Ensuite, au Real, c'est évidemment un autre calibre. Et moi, je ne trouve pas forcément, d'ailleurs, toujours cette équipe très équilibrée. C'est-à-dire que je vois pas de véritable numéro 9. Je vois pas de Bellingham. Moi, c'est un 8, c'est pas un 10. Il y a des choses qui se passent. Et puis, j'ai l'impression que ça penche beaucoup côté gauche entre Mbappé, Vinicius et même si Diomandé peut jouer à droite à Leipzig, il joue plutôt à gauche. Donc, je sais pas. J'attends. Mais je pense pas qu'il sera titulaire. Maintenant, je suis pas. Faut pas oublier que Mourinho, c'est pas un spécialiste pour s'occuper des jeunes. Hein.
Ah non,
c'est pas un formateur. Il s'en fout complètement lui. Hein.
Oui.
Après, je pense aussi qu'il sera bien accompagné. Hein. C'est un joueur francophone. Au bout de deux jours, on le voyait envoyer des des stories Snapchat, pardon, avec avec Kylian Mbappé. Je pense qu'il y a une belle équipe de francophones aussi qui seront là aussi pour l'aider. Je pense que Kylian Mbappé peut aussi essayer de le prendre sous son aile, lui donner des conseils aussi sur ce genre de moment. Lui aussi qui arrivait, bon, il avait prouvé davantage, mais qui arrivait quand même jeune après son premier transfert au Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils seront là aussi pour l'accompagner et pour l'aider dans ces prochains mois, ces prochaines années.
Bon, prochain match pour le Real en Liga, le 4 septembre sur la pelouse du Real Betis Valenciennes, dont on parlera tout à l'heure, qui s'est fait étrier par le Levante de Luis Castro. On en parlera tout à l'heure.